Bonjour à tous, alors qu'on ne sait même plus comment s'habiller tellement la météo passe du chaud au froid en ce moment, nous on se pose pas trop de questions et on file directement dans les salles de cinéma, puisqu'elles ont l'avantage d'être toujours à la même température. Vous l'avez compris, vous êtes bien dans votre podcast de critique du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 13. Aujourd'hui un programme difficile à décrire puisque les films n'ont strictement rien à voir entre eux, aussi bien dans l'époque que dans le continent. Nous parlerons de Rafiki, de Thunder Road et des Frères Sisters. C'est Guillaume au micro et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de fidèles, comprenez ceux qui sont restés en France, à savoir Cédric, Marie, Marine et Fiona. On passe au courrier des lecteurs, qu'on va passer puisque rien cette semaine, mais n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence par les Frères Sisters. Écrit par Jacques Audiard, Thomas Bideguin, et c'est d'après le roman écrit par Patrick DeWitt. Et c'est Marine qui nous le pitch.
Alors, les Frères Sisters, eh bien, l'histoire se passe en Amérique en 1851, et on suit deux frères qui s'appellent Ellie et Charlie Sisters, donc Sisters c'est leur nom de famille, qui sont des criminels et des tueurs à gages qui ont été engagés pour une mission un peu spéciale, qui est de récupérer en fait une formule chimique qui permettrait de repérer l'or ou les pépites d'or dans les torrents ou à travers l'eau. Et pour cela, en fait, ils suivent la piste d'un détective qui s'appelle John Morris et qui a retrouvé le chimiste. Et ce détective tente de retenir le chimiste pour que les deux frères puissent le rejoindre et extorquer la formule et enfin assassiner le chimiste, se débarrasser de lui. Le problème, c'est que Maurice en fait va se lier d'amitié avec Warm, c'est ça, pas Kermit.
Warm,
du coup. Warm, donc Warm. Ce fameux chimiste, et va l'aider à échapper à ses deux poursuivants. Et au final, les Frères Sisters décident de s'associer avec Maurice et Warm et de partager les gains. Et la cupidité de Charlie va entraîner la mort de Maurice et Warm. Et finalement, les Frères Sisters ont terminé leur épopée de violence en éliminant tous leurs adversaires, y compris leurs commanditaires. Et ils vont finir par rentrer chez eux, retrouver leur maman dans la maison familiale. Voilà.
Très bien, Fiona.
J'ai trouvé que c'était un film assez intéressant et assez inattendu. Bon, c'est une course-poursuite, c'est la course-poursuite la plus lente de la Terre, puisque bon, c'est deux types qui courent donc, après deux types pendant très longtemps, de manière très lente. Donc la première partie, je trouve que le film est quand même assez long, j'ai trouvé. Et c'est dans la première partie que j'aurais un peu raboté et gagné du temps, parce que pour le coup, la seconde partie, à partir du moment où les Frères Sisters retrouvent Warm et Maurice, le tout prend une tournure très inattendue. Vraiment, on ne s'attend à rien de ce qui va se passer. Les scènes sont fortes, c'est surprenant. Et pour cette deuxième partie, voilà, à partir de là, on est vraiment embarqué dans quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans un western. Enfin, c'est plus ou moins un western quand même, voilà, on peut
oui,
le dire.
Rien, hein.
À partir de là, c'est très surprenant.
Amusant pour revenir sur le turning point. Tout la base du film, c'est les deux frères qui essayent de choper les deux mecs. À partir du moment où ils se retrouvent, il y a une situation où ils sont obligés de s'allier parce qu'il y a d'autres mecs, d'autres mercenaires qui sont venus les tuer. Mais moi, je suis d'accord avec, j'ai oublié son nom, avec John, il faut les tuer. Ils sont trop dangereux de les garder, surtout que le travail qu'ils font, d'accord, ça va plus vite à quatre, mais ils auraient très bien pu le faire à deux. Et ils ont pris un risque énorme de les garder vivants.
Oui. Ce ne sont pas des criminels,
c'est ça.
Et ce ne sont pas des criminels, ils ne veulent pas tuer quiconque.
Bah, ils sont quand même payés pour ça. Hein. Ils sont payés pour le trouver et le torturer.
Oui, les deux frères. Les deux frères sisters, mais les autres, c'est Warm.
Les fugitifs décident de ne pas tuer les tueurs à gages.
Pour moi, c'est une grosse erreur de ne pas les tuer.
Mais c'est pas leur caractérisation, enfin, ils ne sont pas comme ça.
Bah, d'ailleurs, c'est la sauvagerie contre la civilisation et c'est un peu
et on voit qu'il
l'essence
gagne
du film.
Ah oui, c'est complètement le sujet du film, je trouve. C'est d'ailleurs pour ça que le début du film est vraiment très long. Et je me suis posé la question si c'était pas justement le temps pour les scénaristes de poser toute cette sauvagerie du monde du western, de poser vraiment les vrais codes du western pour finalement, au niveau du turning point, s'en dégager. Parce qu'en fait, plus ils avancent, plus ils retournent à la civilisation, puisque plus t'avances dans le film, ils arrivent dans des grandes villes qui sont en construction. Et en fait, pour moi, c'est la fin d'un monde, c'est la fin du western tel que du Far West, en fait, tel qu'on le connaissait à cette époque-là, parce que 1851, c'est le, plutôt la fin de cette époque. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que c'est un western, mais c'est un western de fin d'époque. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, quand ils retournent chez eux, c'est une scène qu'on on ne voit jamais dans un film de western, quand ils retournent chez leur mère dans leur chambre d'enfant, c'est l'après, quoi. Et c'est vraiment très inattendu, ça, je suis d'accord.
Vrai. Cédric ?
Ouais, je suis assez d'accord pour dire que c'est un peu un anti-western, parce que toutes les situations, tous les conflits sont désamorcés de manière un peu étrange, enfin en tout cas anti-dramaturgique. C'est vraiment tout ce qu'on nous apprend à ne pas faire quand on doit écrire un scénario, puisqu'il traque deux types. Quand il les retrouve, finalement, ils deviennent potes. Ils sont traqués par d'autres mecs, mais finalement, ils les laissent partir. Ils décident d'aller tuer leur commanditaire, mais quand ils arrivent, il est déjà mort. Et toutes les situations sont désamorcées. Et c'est vrai qu'on est loin des situations épiques qu'on peut avoir dans les Sergio Leone où tout le scénario converge vers l'affrontement des personnages. Là, en fait, tous les affrontements, tous les conflits sont désamorcés avant qu'ils aient lieu presque.
Oui, Marine ?
Oui, puis il y a plein d'éléments justement par rapport à ce retour à la civilisation que tu ne trouverais jamais dans un western, qui sont vraiment des petites choses comme le fait qu'ils découvrent une brosse à dents, la première brosse à dents dans une boutique, et puis il y a plusieurs scènes où on
l'utilisation
le voit,
des toilettes.
Voilà, l'utilisation des toilettes, et où on le voit essayer de comprendre comment ça marche, une brosse à dents. Enfin, c'est des petits éléments comme ça que jamais on n'aurait vu dans un western.
Justement, c'est le lien de la brosse à dents, je trouve que c'est la réutilisation de la brosse à dents. Et vraiment maligne quand Ellie du coup se brosse les dents et voit Maurice faire pareil, qui pour moi c'est vraiment la scène où ils se disent ouais, on réfléchit pareil, on a la même envie de civilisation, d'un monde civilisation et de vie et d'un monde meilleur, parce que tous les deux on se brosse les dents
voilà. et du coup le projet en plus de Kermit Herman, c'est en plus dans un but absolu de créer une société idéale à Dallas.
On est dans un monde de brut, un monde horrible.
Oui, il le dit.
Je ne veux plus vivre là-dedans.
Oui. Fiona ?
Le petit reproche quand même que j'aurais à faire sur ce film, c'est que je le comprends, mais j'aurais préféré qu'on s'attarde un peu plus sur le retournement de mentalité de John Morris. Parce qu'on voit un peu leur amitié qui naît avec Herman Worm, mais de là à ce qu'il libère, je trouve qu'il m'a manqué une petite raison supplémentaire pour Maurice de libérer Worm et de prendre ce gros risque de partir avec lui.
Pour moi, c'est la torture, c'est l'argument de la torture. Ils vont pas juste me tuer, ils vont me torturer, et ça allait au-delà pour sa conscience morale.
Mais John Maurice, il est pas né de la dernière pluie, c'est quand même pour qu'il bosse et. Je trouve qu'il est un peu naïf. Voilà.
Ouais, il est un peu naïf, mais je trouve que ses arguments sont bons. Il dit, ils vont m'arracher les doigts, ils vont me crever les yeux. Et il dit, est-ce que tu vas regarder et tout ? En gros, si t'empêches pas ça, t'es complice. Et ça, je trouve ça, c'est très malin de sa part. Marine ?
Oui, je suis d'accord que les arguments, effectivement, sont valables et qu'on comprend en tout cas pourquoi il agit comme ça. C'est vrai que sur la longueur du film, je m'attendais à connaître un peu plus le personnage de John Morris, qui finalement, je trouve, reste assez opaque. On ne sait pas tellement qui il est. Il reste assez schématique en termes de personnage, quoi. Ça reste un détective, bon, il traque le chimiste, mais. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il tient un journal, donc il y a beaucoup de voix off où il lit en fait les lettres et le journal qu'il écrit, mais ça ne nous donne pas plus d'indications sur qui il est, parce que c'est vraiment, il narre ce qui lui arrive, et j'ai manqué de découverte, quoi, sur ce personnage.
Cédric ?
Ouais, c'est un archétype de l'homme civilisé, justement, qui se pose des questions, mais qui meurt avant d'avoir les réponses. C'est pour ça que le film est un peu particulier, quoi. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que...
Aïe, non.
Ah, on ne saura jamais ce qu'on n'a pas dit.
Et on ne saura jamais, Marie ?
Non, mais... Ah, mais j'avais envie de savoir ce que vous voulez dire, Cédric.
Il reviendra.
Non, mais alors c'est vrai, en fait, le détective est assez sous-développé par rapport aux trois autres personnages principaux, puisque le scientifique, on sait très bien, lui, ce qu'il fuit et ce qu'il recherche dans la vie, un monde meilleur. Il veut carrément bâtir une nouvelle civilisation, une nouvelle ville qui serait loin de cette violence. Il dit qu'il fuit son père qui l'a battu, je sais plus. Il a vraiment fui la violence toute sa vie. Et d'un autre côté, tu as les frères Sisters qui, eux, sont extrêmement bien développé. La relation entre les deux est merveilleuse, parce que tu as l'aîné qui explique que leur père les battait, leur père alcoolique les battait, et il a laissé son petit frère tuer leur père pour les sauver, alors que, et il s'en veut depuis toujours, puisque c'est c'était son rôle d'aîné, et depuis, en fait, tu comprends que il cherche à se rattraper auprès de son petit frère, qui et la relation, elle est merveilleuse de conflit, parce qu'il essaye plusieurs fois de se barrer. Lui, il veut pas être tueur. Lui, c'est le doux gentil.
Lui, il veut une vie ordinaire,
il,
avec
il veut épouser une femme. Il veut avoir son petit lopin.
Ah oui, ça, la scène où il est avec la prostituée, et puis non, il veut pas coucher avec elle. Je veux que tu me dises que je vais te manquer et tout ça. Elle est vraiment, vraiment tendre. Oui, Fiona.
Juste, donc je suis d'accord sur toute cette relation fraternelle, mais j'ai pas bien compris les flashbacks sur le, enfin les flashbacks, les rêves sur le père. Je sais pas si c'était très nécessaire.
Ah oui.
Mais ça les hante. Pour moi, c'est ça que ça dit, c'est que ça les hante. Ils sont issus de la violence, ils perpétuent la violence. Et j'ai lu une interview de Audiard qui dit que ça parle de l'héritage, ce film. Et je trouve que, bah oui, c'est ça, c'est la barbarie, l'héritage de la barbarie, et qu'est-ce que t'en fais. Et c'est pour ça, je pense aussi que la première partie, effectivement, est très longue. On les voit se battre avec un ours, enfin on les voit pas, mais ils se battent contre un ours, ils dorment dans la forêt, il y a une araignée qui rentre dans sa bouche, il manque de crever, il y a un cheval en feu qui passe dans la nuit, mais il y a des images terribles. Ils sont venus arrêter un type, ils ont tué 10 sans faire exprès. Enfin, c'est
pas vraiment sans faire exprès. Il fait noir, il voit pas.
Dommage collatéraux, quoi. Enfin, effectivement, c'est très long. On nous pose beaucoup la barbarie, mais avec plein de touches de tendresse qui nous amènent vers cet idéal qu'ils espèrent.
Oui, Cédric.
Et plein de touches d'humour, parce que c'est ça qu'on a oublié de dire quand même. C'est que le film est assez drôle. Alors c'est de l'humour noir le plus souvent, mais c'est quand même les pieds nickelés au Far West. Hein. Les deux frères, ils sont quand même. Assez bête à certains moments.
Y a la scène qui, pour moi, est le moment où vraiment le film démarre, c'est quand il se retrouve dans cette ville. Alors, c'est quoi c'est Mayfield. Pour moi, c'est justement, il y a cette longue période qui pose pas mal de choses. Et puis, soudainement, ils arrivent dans cette ville. Et là, c'est très inattendu. Ça devient effectivement très humoristique.
Mais t'as raison. Ouais. Mayfield, c'est effectivement le moment où le film démarre vraiment.
Ouais, c'est là où je me suis dit, enfin, il commence à se passer des choses assez inattendues avec le tenancier qui est un travesti qui a donné son nom visiblement à toute la ville.
Qui dit jamais je vous donnerai le code de mon coffre-fort. Oui. D'accord. La scène d'après, il est mort.
Bah, oui, génial. En même temps, on suppose qu'ils l'ont torturé. Non, mais pour revenir à ça, c'est qu'ils sont caractérisés comme des fines gâchettes. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de Deus qui les sauve, quoi. C'est-à-dire que bon, la première scène, ça commence, des coups de feu, ils sont 2 contre 7 ou 8. Ils se prennent jamais une balle, quoi. La scène avec Mayfield, ils sont 4 contre 2. Et on a un qui est complètement bourré, qui vomit avant de tirer. Et la scène où l'autre s'est fait couper le bras, là, j'ai oublié son nom, il sort, et 1 contre 3, et on sait juste qu'il a gagné, quoi. Et la scène où ils sont capturés, ils se font sauver coup de peau par d'autres mercenaires qui arrivent à ce moment-là, donc du coup ils sont obligés de les détacher. Il y a quand même beaucoup de déos, ça on peut pas le nier dans ce film.
C'est sûr, mais en même temps, je trouve que ça participe à la légende. Ils disent on est les frères sisters, tout le monde nous connaît, la réputation.
Il y a une différence entre la réputation et la bénie.
Voilà, faut dire que c'est vraiment des mecs dangereux et c'est pas le petit tireur du coin, quoi.
C'est leur métier. Ouais, ça les caractérise bien.
Et c'est les meilleurs dans leur métier, apparemment.
Ouais.
Moi, j'ai un souci quand même avec ça de crédibilité. Enfin, oui, même merci. Si ça n'a pas nui au film pour moi, mais le fait qu'il soit quand même un peu débile, et c'est un peu les pinnacles au Far West, du coup, j'ai du mal à accepter qu'à chaque fois, ils s'en sortent de manière qui, effectivement, est complètement déousse, même sur la fin, quand Maurice et Worm se retrouvent aux prises avec les autres chercheurs d'or ou ceux qui les traquent.
Oui, c'est les mercenaires du Commodore.
Les mercenaires, voilà. Les super-héros, c'est les frères sisters qui viennent retourner
Élipsé,
la situation. Mais on les a pas vraiment montrés comme des mecs extrêmement
pour moi, on les a montrés comme des mecs extrêmement chanceux. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont nés pour ça, ils se prennent jamais une balle. Et justement, à la fin où ils retournent vers le Commodore, on voit, c'est en flash, enfin c'est en cut, où ils se font poursuivre la nuit, ils se cachent derrière les rochers, ils se font poursuivre à cheval et tout. Puis ils s'en sortent plus jusqu'à éditer, ça fait un moment que personne n'essaie de nous tuer, dis donc.
Ouais, 4 jours, c'est bizarre,
ça fait 4 jours, mais donc genre c'est différent, c'est leur quotidien, et ils s'en sortent tout le temps, quoi. Cédric ?
C'est en ça que c'est anti-dramaturgique, justement, les conflits sont désamorcés, comme je disais tout à l'heure. Mais en même temps, je pense que le message derrière, c'est que les gentils ne sont pas forcément récompensés, et les personnages positifs meurent avant d'avoir réalisé leurs rêves, et que les affreux, finalement, arrivent à tailler leur route dans cette espèce d'univers. Donc peut-être que, comme dans la vie, où finalement, il n'y a pas toujours de moralité dans la réalité, quoi.
Mais il y a une rédemption.
Oui.
Peut-être.
Oui, Fiona.
à partir du moment où il perd son bras. Oui. Mais sur le personnage de Charlie, il y a juste aussi une autre petite caractéristique qui m'a manqué. À partir du moment où, il donne son accord, on va dire, avec Worm et Maurice, moi, j'attendais quand même la trahison. Il avait l'air quand même très proche de son commodore, on va dire, en tout cas.
C'est lui qui voulait pas quitter ce métier.
C'est lui qui voulait pas. Et je pensais vraiment qu'à un moment, il essayait de retourner sa veste, il le fait jamais. Et
ouais, mais justement, c'est peut-être ça qui est inattendu. C'est ça qui est inattendu, parce que tu t'attends. Ok, il s'associe, mais tu t'attends pas à ce qui se passe dans cette scène-là, qui est quand même une scène assez extraordinaire, qui est très longue, mais qui est inattendue dans un western, où ils cherchent les pépites d'or dans l'eau grâce à l'aide de la formule chimique, enfin cette espèce d'acide hyper corrosif.
C'est du mercure.
Oui, qui est incroyable, et qui en fait tout se résout. Peut-être qu'il les aurait trahis plus tard, mais non, tout se résout par une énorme cupidité et
malheureusement du personnage. On va en venir justement dans cette scène. Enfin, moi j'étais dans la salle, le film est quand même très sombre. Et là, cette scène, je ne voyais pas qui étaient les personnages qui avaient versé, je ne comprenais rien. J'ai dû avoir, c'est vrai que j'ai des lunettes sales. Et j'ai dû attendre le matin pour qu'il fasse jour pour voir. Je dis, mais attends, mais lui aussi, il a été brûlé. Et je ne comprenais pas pourquoi il n'y en avait qu'un seul qui s'en était sorti.
Pour la défense de Guillaume aussi, pendant une seconde, je me suis dit, je ne comprenais pas pourquoi. Je crois que c'était Charlie qui disait mes yeux, mais en fait. Voilà, je croyais qu'il était plus atteint que ça, Charlie. Mais en fait, il est sur le barrage et lui, il balance dans l'eau. Donc, ceux qui sont dans l'eau qui
plongent. Le détective et le chimiste plongent.
Ils sont déjà dans l'eau.
Ils sont atteints au visage et c'est ça qui les tue, en fait.
Oui, mais j'arrive pas. Oui, mais pourquoi ils sont atteints au visage?
Non, mais parce qu'ils sont déjà dans l'eau. Ils essayent de fuir de l'eau, si j'ai bien compris.
Ils mettent la tête sous l'eau.
Et voilà, c'est ça.
Et pourquoi ils mettent la tête sous l'eau?
Parce qu'il y a un
agent en agence, un moment de panique.
En fait, ils tombent.
Mais ils ont pied. Tranquillement aller.
Non, mais à mon avis, je pense que d'un coup ça les brûle aussi au niveau des jambes.
Donc ils se sont dit, j'ai mes pieds qui brûlent, je vais plonger la tête dedans.
Non, mais pour moi, ils plongent pas, ils sont déjà dans l'eau. Il y a le mercure qui est déversé, ça les brûle. Ils veulent fuir, quitter l'eau, mais comme ça les brûle, leurs mouvements sont beaucoup plus désorganisés et ils tombent dans l'eau. Enfin, peut-être la première. Mais cette scène, j'ai trouvé vraiment très très puissante parce que pour le coup, vraiment, on voit. Dans l'œil de Charlie, pareil, quand ils vont tous se rincer, je me dis, oh là, Charlie, il va rester là, il va dire.
Il va y passer.
On se dit, il va y passer, il va rester parce qu'il ne va pas aller se rincer, parce que par cupidité, il veut garder tout l'or. Et c'est encore pire ce qui se passe. Et on voit je trouve que pour le coup, on voit dans son œil la folie de il faut en mettre plus, il faut y aller. Enfin voilà, on voit ce côté très, très.
Bah oui, alors qu'ils auraient pu réessayer le lendemain tranquillement.
De l'or, mais on voit le.
Les pépites d'or vont aller nulle part.
C'est l'impatience, quoi, l'impatience de s'enrichir et de ce procédé incroyable qu'il trouve, quoi.
Allez, on termine. Sur ce film, tour final, Cédric.
Ouais, moi je le recommande chaleureusement. Hein, moi j'ai bien aimé. C'est un film qu'il faut voir, même si justement on est surpris, mais c'est pour ça qu'il faut aller le voir.
Ok, Marie.
Même chose. J'ai été très surprise par ce film que je recommande et qui m'a énormément touchée. J'étais très très émue en sortant de la séance. Très beau film.
Marine.
Pareil, je recommande, même si le début est peut-être un peu long, ça vaut quand même pour de très très belles scènes et puis des personnages très bien campés.
Ok, Fiona.
Pareil, j'ai trouvé le début un peu long et le film en règle générale un peu long, mais c'est tellement inattendu qu'il faut aller le voir. Et par contre, certains dialogues d'Audiard m'ont un peu déçu. Enfin, alors, la vie, c'est comme ma vie est comme un barillet vide. Voilà, on va dire, heureusement que c'est en anglais pour que ça passe, quoi.
En même temps, c'est des.
C'est des cowboys, donc ils font des métaphores là-dessus, c'est pas normal.
Ma vie est comme un barillet vide.
Ouais,
ça m'a pas touché au plus profond de mon âme, quoi.
Bah, moi qui demande à être surpris par les fins des films, là, j'ai vraiment été surpris parce que pendant tout le film, je me suis dit, ils vont forcément finir mal. Et le fait qu'ils finissent dans leur maman, dans leur lit de leur gosse, riches en plus, parce qu'ils sont pétés de thunes maintenant avec tout le monde, donc tout allait bien pour eux. Et comme celui qui ne voulait pas arrêter a perdu son bras, il va être obligé d'arrêter, donc il est obligé de suivre les traces de son frère. Et ça donne très envie de jouer à Red Dead Redemption 2 qui sort fin octobre, là n'oubliez pas. On continue avec Rafiki, écrit par Jenna Kato Bass et Waniru Kayu. Pardon si j'écorche un nom, et c'est Fiona qui nous le pitch.
Alors Rafiki, qui veut dire ami en swahili, ça se passe à Nairobi au Kenya, et le film nous raconte l'histoire de Kena, une lycéenne qui va se lier d'amitié avec une autre fille de son âge, Ziki. Seulement leur papa se présente tous les deux à l'élection municipale de la ville et sont donc rivaux. On pourrait croire que c'est ça le problème, mais pas vraiment. Le vrai problème, c'est que Kena et Ziki ne sont pas que des Rafiki, elles sont en réalité des Rafiki et plus si affinités. Et oui, les deux jeunes femmes sont amoureuses l'une de l'autre. Et croyez-le ou non, l'homosexualité est encore moins bien acceptée en Afrique qu'en Europe. Kena et Ziki, pleines de rêves et d'ambitions, vont donc devoir faire un choix, être elles-mêmes et s'aimer librement au risque de se faire péter la gueule. Ou bien... Il y a un chat qui m'a perturbée. Elle, au risque de se faire péter la gueule, ou bien prétendre être ce qu'elles ne sont pas et jouer les bonnes Kenyanes avec un bon mari. Bref, rentrer dans le moule, être comme toutes les autres, ce qu'elles se sont pourtant jurées de ne jamais devenir.
Très bon pitch, ma Fiona. On voit que tu l'as bossé. Alors, c'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film, mais on n'a pas énormément de choses à dire parce que, bien que ce soit pas un mauvais film, c'est quand même une histoire extrêmement banale, quoi. Ça nous présente une histoire d'un premier amour, comme dans Call Me By Your Name, sauf que, bah, elles ont un peu plus de problèmes, l'homosexualité est un peu plus traitée, mais ça joue pas tant que ça.
En fait, donc, effectivement, l'histoire est très plate. C'est pas inintéressant, mais c'est pas intéressant non plus. C'est un peu entre les deux. Ça fait très premier film, première version de film. On a envie... Mais alors, déjà... À partir de, pour nous, Européens, on va dire qu'on a déjà vu ce genre d'histoire et que ça nous intéresse
oui.
pas trop. Mais le fait est que ce film a été interdit au Kenya. Donc rien que pour ça, je pense que c'est un, important comme sujet.
Ah,
il y a, peut, y a ça une peut, nécessité
ça,
d'en
ça,
parler.
Ça, non, mais ça peut pas être un argument scénaristique.
Oui, non, non.
C'est que le film soit interdit.
Mais du coup, c'est quand même bien que ce film existe. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est des bonnes intentions et des bonnes intentions ne font pas un bon film. Et là, c'est vrai qu'on on a des choses positives, mais c'est vrai qu'on a plein de... C'est trop lisse.
Oui, c'est beaucoup trop lisse.
On a une histoire politique qui se veut être un peu à la Roméo et Juliette, mais c'est pas traité du tout, en fait.
Ça sert à rien.
C'est pas du tout traité.
Non, mais toute l'intrigue politique avec les deux parents qui se présentent comme jeunes, tu l'enlèves, ça ne change rien au film.
Exactement.
Parce que ce qu'on leur reproche, c'est pas d'être des filles qui ont des parents ennemis. On leur reproche d'être homosexuelles, de base.
C'est ça, à aucun moment, c'est une étape, le fait qu'elles traînent ensemble alors que... leurs pères sont ennemis, donc ça ne sert à rien.
D'ailleurs, l'intrigue n'est pas bouclée. On ne sait même pas qui gagne l'élection.
Oui, on s'en fiche, en vrai.
Oui, en fait, on s'en
fiche. Et pareil, on a le père de Kena qui a une nouvelle... Enfin, qui s'est séparé de sa femme depuis longtemps et qui attend un bébé. Et pareil, on s'en fiche, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à strictement
rien. Alors, peut-être que c'est juste pour montrer qu'au Kenya, le sujet de la famille recomposée... Là, on y est, c'est peut-être OK, mais l'homosexualité, on n'y est pas encore. Je sais pas, j'essaie de trouver des raisons à cette intrigue, mais...
C'est pas con.
On le voit pas trop. Il y a un personnage qui est homosexuel, aussi un garçon qu'on voit, qui est moqué, qui est brutalisé à certains moments. Mais, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais pour lui, c'est vivable, dans le sens où...
Je suis d'accord.
Voilà, dans le sens où... Quand on le voit, on se dit que l'amour des deux filles pourrait résister à ça, en fait.
Mais c'est ça, parce que...
Qu'ensemble, elles pourraient l'affronter.
L'enjeu n'est pas assez fort, parce qu'on nous présente un personnage homosexuel dès le début pour montrer quelle est l'ambiance. Et ok, d'accord, il se fait insulter, il fait « Ah, regardez, c'est le PD de service et tout. » Mais c'est quand même un pays, le Kenya, je suis allé voir sur Internet, c'est condamnable à 13 ans de prison. C'est quand même un peu plus grave que de se faire insulter. Et en gros, il arrive à vivre. Donc même si on dit « Ok, elles vont se faire repérer, même si leur homosexualité éclate au grand jour, ce qui arrive dans le film », c'est pas un enjeu bouleversant, quoi. On n'est pas au Moyen-Âge dans les plaines françaises où ils allaient se faire pendre au bout des églises, quoi.
C'est vrai que c'est dommage parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qu'on essaye de faire passer, peut-être entre la modernité et la tradition, parce que ne serait-ce que dans... mais ne serait-ce que dans les langues, on passe de l'anglais au swahili assez souvent.
J'ai même pas remarqué
donc,
ça.
Du coup, pareil, j'ai essayé de réfléchir à est-ce que c'est peut-être ça qu'ils veulent nous dire, mais je suis pas sûre, c'est ça le problème aussi. En fait, moi j'avais une idée, peut-être pour que ce soit. Pour parler d'homosexualité au Kenya, en étant un petit peu moins classique, bah, j'aurais bien voulu en fait que ces deux filles soient vraiment Rafiki, c'est-à-dire soient vraiment des amies et pas plus, mais que rien que le fait qu'elles soient très proches, elles soient suspectées d'homosexualité, que rien que ça, ce soit insupportable. Et je trouve que ça aurait été une façon peut-être un peu plus originale de traiter de l'homosexualité. Sur des personnages qui ne le sont pas, mais ne serait-ce qu'une amitié forte de deux filles qu'on soupçonne, c'est déjà beaucoup trop pour ce pays, peut-être.
Oui, mais déjà, ce film, c'est la vie d'Adèle sans les scènes de sexe. Si en plus, elles s'embrassent même pas. Marie, tu as une question, peut-être ?
Non, mais ce que je disais, Fiona, était intéressant. Et je pense que ce qu'il faudrait rajouter, c'est des enjeux plus forts. Effectivement, si tu es soupçonnée d'homosexualité... et que tu l'es pas, mais qu'en plus tu risques 13 ans de prison ou de te faire lapider dans la rue.
Et oui, parce qu'elles
font...
Elles se font
quand même, il y a une scène où elles se font attraper et elles se font tabasser vers la fin.
D'ailleurs, on va parler de cette scène.
Ah oui.
Mais c'est qu'elles s'enfuient toutes les deux, elles ont un repère où elles vont s'embrasser, escaliner une camionnette perdue dans la forêt. D'un seul coup, tout le monde semble connaître l'emplacement de cette camionnette. Et au moment où elles se font griller, il y a tout le village qui est là.
Oui, c'est
comme ça qu'elles se font.
Oui, c'est comme ça qu'elles
sont. En fait, il y a la petite, la commère.
Voilà, il y a la commère du village.
Du village, enfin de la ville, qui les suit, qui les repère. Et on dirait qu'elle est suivie par absolument tout le village. Tout le village qui fait sortez de là et tout. D'un coup, c'est très violent. Mais Voilà, on ne sait pas trop pourquoi.
Après, oui, mais c'est, attends, c'est que les autorités, quel est l'enjeu? Au moins, ils se font griller. Tu dis, quelles vont être les conséquences? Avant des conséquences civiles, parce qu'ils vont se faire casser la gueule. Quelles vont être les conséquences légales? Elles sont tous les deux assis sur une banquette au commissariat, même pas attachées. D'ailleurs, à un moment, il y en a une qui se lève et qui se barre.
Oui, non, mais non,
et puis les flics la laissent partir.
Ils attendent juste les parents. Quoi.
Ils attendent juste les parents. Donc, l'enjeu de l'homosexualité, à part le regard des autres qui peut être dur à supporter, n'est pas assez fort pour un film entier.
Et la violence. Non, il y a quand même. Ceci dit, ils ont fait Call Me By Your Name où il n'y avait absolument aucun enjeu autour de l'homosexualité. Donc à partir de là,
bonne remarque.
Ça peut marcher. Par contre, ce qui est dommage, il y a quand même des choses positives à ressortir de ce film. Non, par exemple, on a le personnage de la mère de Kenna qui est enseignante. Donc on pourrait penser pendant un moment qu'elle est peut-être plus ouverte. Mais finalement, c'est quand même elle qui va pousser à faire un exorcisme de sa fille à l'église pour qu'elle quitte l'homosexualité, que l'homosexualité quitte son corps.
Donc, très très américain cette
voilà,
scène.
C'est un peu ça, mais du coup, on se dit mince, c'était le personnage. Ouais, elle était enseignante. On pouvait attendre d'elle qu'elle soit plus ouverte, mais elle ne l'est pas, ce qui est plutôt intelligent, je trouve, dans ce film.
Mais elle a la meilleure réplique du film.
Oui.
C'est-à-dire qu'au moment où elle se fait tabasser, donc elle est sale et tout, son père la raccompagne, il faut qu'elle aille se laver, et sa mère lui dit, elle ne sera plus jamais propre maintenant. Voilà, meilleure réplique du film.
Ça en dit long là-dessus. Après, il y a un autre personnage que j'ai vraiment bien aimé, c'est Ziki, justement, qui, en fait, elle a un look tout à fait de londonienne. Elle a les cheveux, bleus, roses, elle est habillée un peu en jean,
oui.
Et elle danse dans la rue. Elle a un côté très pop.
Oui, parce qu'en plus, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'elles ne sont pas du même milieu social.
Oui.
Une qui est plutôt un côté très riche. D'ailleurs, à la fin, il lui paye des études à Londres pour qu'elle s'éloigne.
Ziki est très riche et Kenna est plus un milieu populaire. Donc le père, on peut imaginer, de Kenna est plus de gauche, on va dire.
Voilà.
Alors que le père de Ziki est plus de droite, mais comme ça ne sert à rien. Voilà. mais Ziki, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une scène assez jolie où elle discute et elles se promettent de ne jamais être comme toutes les Kenyanes qui se marient et... Oui, elle lui dit ouais non mais elle se le promet, t'es d'accord,
c'est le cliché de l'amitié, enfin on se promet on sera jamais comme les autres.
Oui, non mais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que Ziki elle a le look de la londonienne, elle a des rêves de voyage, elle a des rêves d'évasion, et quand à la fin du film ses parents l'envoient à Londres justement parce que pour pas affronter l'homosexualité etc et pour l'éloigner, elle supplie ses parents de rester. Et je trouvais ça assez joli sur les rêves qui sont confrontés à la réalité. Ah, je rêve d'évasion, etc. On dit, ok, tu vas partir. D'un coup, ça lui fait peur et elle veut rester. Elle est attachée à ses racines kenyanes.
Non, elle veut rester parce qu'elle est amoureuse de sa copine. Et encore, c'est un premier amour. Je veux dire, pour moi, c'est pas une punition. Ah, t'es homosexuel, t'es au Kenya, on n'a pas le droit de vivre au Kenya, je vais t'envoyer dans un pays où c'est parfaitement toléré.
Bien sûr.
En quoi c'est une punition?
Non, c'est pas une punition, mais c'est pour ça qu'elle le vit comme une punition. Mais alors que c'était son rêve. Donc voilà.
Marie, tu avais une autre question peut-être?
Non, mais je trouvais que c'est tout à fait ce que je voulais dire en fait. T'es homosexuel, va donc à Londres. Ok. Oh, c'est dur.
Et on prend la fin du film, on va finir là-dessus. Et j'ai trouvé un peu expéditive. C'est-à-dire que le film, j'ai trouvé assez long. Et au bout du moment où elles se font repérer, donc ils envoient Ziki à Londres. Et d'un seul coup, t'as une ellipse de, je sais pas, 6 mois, 1 an.
Ouais, où Kenna devient infirmière.
Kenna devient infirmière.
Mais c'est ça qui est triste aussi, c'est qu'en fait, elle voulait devenir infirmière. Et Ziki...
Non, elle voulait devenir médecin.
Non,
t'as raison, elle voulait devenir infirmière.
Oui. Elle voulait devenir infirmière et Ziki lui dit, mais avec les notes que t'as, mais tu pourrais être médecin. Et elle lui dit, oh non, arrête, elle fait, mais si, va au bout de tes rêves, etc. Et en fait, on la retrouve infirmière et après, on sait pas trop.
Mais non, d'un seul coup, après, on sous-entend qu'elle est revenue, Ziki. Et puis la dernière scène, il y a une main qui se pose sur l'épaule de Senna et on suppose que c'est elle.
Oui, on suppose que c'est Ziki qui est revenu, on imagine. On lui dit Ziki est revenu.
Ziki est revenu, voilà. Oui, mais tu vois,
on se dit, elles vont peut-être vivre leur amour, mais on ne sait pas en fait.
Oui, moi je pensais qu'elle serait passée autre chose et qu'elle aurait retrouvé une autre. Tu vois, parce que c'est l'amour homosexuel aurait vaincu et elle aurait trouvé une nouvelle copine et puis elle aurait plus besoin de Ziki.
Mais clairement, là justement, je pense que ce qu'il nous montre en nous montrant qu'elle est infirmière et pas médecin, c'est que.
Elle a régressé.
C'est que
sans elle, elle aurait rien pu devenir.
Sans elle, c'est qu'elle a décidé de tant pis, pas d'homosexualité, je me cache, je suis pas la personne que je devrais être. En gros, je suis pas au maximum de mon potentiel.
Peut-être.
J'imagine que c'est ça.
Marie, tu as peut-être une dernière question.
Oui, cette main qui se pose sur son épaule, ça ouvre sur quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui change dans l'histoire du coup?
On n'en sait rien. C'est juste vraiment, il y a un cut, genre elle part à Londres et après on voit, part à Londres, cut, on voit qu'elle est devenue infirmière. Une patiente, la commère de la ville lui dit, ah, tu sais qu'elle est revenue?
Mais alors cette ellipse ne sert à rien.
C'est très bizarre. C'est,
pour moi, elle est complètement ratée.
Voilà, ellipse. Elle est ratée.
Bon, ils auraient dû arrêter avant, quoi. Ou alors prolonger, mais là, le cut est mal fait. Tour final sur ce film, Fiona.
C'est assez. Les couleurs sont jolies, mais c'est pas du scénario. Non, mais c'est vrai, c'est graphiquement, il est assez joli. Il y a eu des problèmes de prise de son à des moments.
Ah oui, oui, il y a des problèmes de son dans ce film.
Il y a des moments où les personnages ont la bouche fermée, mais on entend leur voix qui parle et c'est vraiment. On sent que c'est un raccord dialogue fait par-dessus, donc je pense que c'est un film qui n'a pas non plus trop les moyens.
Au début, moi aussi, j'ai cru que c'était fait exprès. Non, c'est parce qu'en fait, on entend la voix de la scène d'après. Mais non, parce qu'elle parle pas et ensuite, elle se remet à parler. Ils ont juste oublié une réplique. Et donc elle a dit post-prod et puis ça passe.
On va dire que c'est un joli premier film. Ça a pas grand intérêt pour nous en tout cas.
Voilà.
Et on l'oublie assez vite. Quoi.
Bah pareil. C'est dommage. C'est pas un mauvais film, mais c'est trop banal pour s'y attarder, malheureusement. On termine avec Thunder Road, écrit par Jimmy Cummings, réalisé par Jimmy Cummings, joué par Jim Cummings. Et c'est qui nous le pitche déjà ?
Jimmy Cummings.
C'est Cédric. C'est Jimmy Cummings lui-même qui va venir nous le pitcher.
Ça aurait été bien.
Cédric.
Donc Thunder Road, effectivement. Donc c'est l'histoire de Jimmy Arnaud, qui est officier de police dans une petite ville du Texas, et qui est aussi un gros loser, qui se débat dans une vie qui est un peu trop grande pour lui, et qui essaye de surmonter le deuil de sa mère, tout en élevant sa fille, dont il se dispute la garde avec sa femme.
Voilà, d'accord. Merci, Cédric. Je m'attendais pas là. Il y a eu un cut que j'ai pas vu venir. Alors, en voyant ce film, je me dis qu'il y a des films à réalisateur, où ce qui compte, c'est l'image. Il y a des films à scénario, où vraiment, c'est l'écriture. Là, c'est la première fois que je vois ça, c'est un film à acteur. C'est-à-dire qu'il a fait ce film, et c'est pour ça que j'étais très étonné. Je me suis dit, mais qui a réalisé ce film? Et quand j'ai vu que c'était lui qui avait écrit ça, il s'est écrit son propre rôle. Et alors, il joue extrêmement bien. Ça,
je l'ai taillé sur
mesure. Non, mais il s'est taillé sur mesure. Il se l'est taillé lui-même, je sais pertinemment comment il a fait. Il s'est dit, le monologue du début qui est un plan séquence mais qui doit durer 10 minutes sur l'enterrement de sa mère est très bien, il voulait se mettre en scène, et puis le deuxième monologue où il pète les plombs devant ses amis flics et qui se fout torse nu et tout, j'ai l'impression que ce film c'est un book. Il dit, regardez de quoi je suis capable, Hollywood, maintenant essayez de m'engager.
Pas tout à fait d'accord.
Fiona.
Il joue très bien, etc., mais je pense pas que ce soit un book. Pour moi, ce film, c'est un peu un hymne à la sensibilité masculine. Non, mais vraiment, non, mais on voit... On ne voit jamais ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On voit un nervous breakdown d'un homme. On voit un mec qui, à plusieurs reprises, s'effondre en larmes et pleure avec des vraies larmes pas américaines, c'est-à-dire vraiment où t'es pas beau quand tu pleures, où t'as la voix qui part dans les aigus, très très moche comme ça, qu'on ne voit pas dans les films américains et encore moins dans les rôles masculins. Et ce film te montre ce mec-là qui est, je trouve, ultra attachant. Et personnellement, ça m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de scènes très justes et très touchantes.
Très bien, Marine.
Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est un personnage masculin et un personnage, en règle générale, que je n'ai jamais vu dans aucun autre film. En fait, j'ai mis beaucoup de temps pendant le film à me dire, est-ce que j'aime ce que je vois ou pas? C'est extrêmement embarrassant du début à la fin. T'es embarrassé pour lui quand il fait son monologue à l'enterrement de sa mère pendant 10 minutes. T'es embarrassé pour lui quand il parle à sa fille et que clairement elle voit que c'est un loser. T'es embarrassé pour lui quand il est face à ses collègues flics qui savent pertinemment que c'est un loser. En plus, c'est là où j'étais très étonnée, c'est les dialogues. À chaque fois qu'il ouvre la bouche et qu'il commence à parler, tu ne sais jamais où il veut en venir. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure où il est en train de parler, tu te dis, ah d'accord, en fait, il parle de ça. Mais ces dialogues prennent des tours auxquels tu ne t'attends pas et tu te demandes tout le temps, mais quand est-ce qu'il va se taire? Parce que et y a une scène qui est incroyable, donc il est chez le juge et il doit parler pour avoir la garde de sa fille. Et son avocate lui dit, surtout... dites juste ce que vous avez à dire, ne soyez pas superflu. Et là, tu te dis, c'est foutu. Parce que c'est tout l'inverse, en fait. Il parle toujours de manière superflue depuis le début.
Il est maladroit, il est très maladroit.
Et Enfin, j'ai trouvé, et au final, j'ai trouvé ce personnage et ce film extrêmement touchant, mmh. et particulièrement pour les scènes avec sa fille.
Ok, Marie ?
Moi, je voudrais rebondir sur le fait que c'est un film embarrassant. Donc, ça commence sur l'enterrement de sa mère, où donc c'est un plan séquence, effectivement, d'une bonne dizaine de minutes. Il danse, il a prévu une chorégraphie, parce que sa mère était prof de danse devant le cercueil. Ça marche pas, la musique. Enfin, bon, bref, c'est n'importe quoi.
Du coup, il danse sans musique.
Oui, il danse sans musique. Et ben, à la fin de cette scène, quelqu'un dans le cinéma devant moi est sorti de la salle et n'est jamais revenu. Et j'ai trouvé ça fort à la 10e minute du film. Voilà.
Et moi, c'était l'inverse. Moi, personne n'est sorti. Il y a un mec qui est sorti à un moment, mais il est revenu.
C'est pas très, très important. Cédric ?
Bah, c'est vrai que on est plus habitué aux films américains qui nous vendent des images de super-héros et de surhommes. Et là, on est un peu dans l'inverse, quoi. On est un peu dans un personnage. Un personnage qui a du mal à trouver sa place et qui et ce qui est terrible c'est qu'en fait il fait des efforts et il fait pas vraiment des mauvais choix et c'est vrai qu'il est un peu maladroit mais vraiment il essaye et en fait il n'y arrive jamais et c'est ça qui est terrible avec ce personnage.
Très bien, Fiona.
Dans la scène donc que j'ai adoré, donc cette scène du début, ce que j'ai trouvé vraiment fort, c'est que au début de la scène, donc il est en plus avec son costume de flic qui est censé représenter un peu la virilité. Et il a l'air au début d'être très droit et presque de s'en foutre. Moi au début je croyais qu'il s'en foutait de sa mère et de n'avoir aucun sentiment pour elle. Il a l'air assez pas de pas savoir ce qu'il fout là, donc on se dit bon. Et plus ça avance et tu dis mince, en fait cet homme est brisé, quoi. Il est complètement brisé, il est complètement en train de péter un câble. Et par contre je trouve que les gens qui l'entourent, à part son meilleur pote Nate, je crois.
Oui, Nate, oui.
Sont des sombres connards.
Non.
Attends, mais les gens disent, lui reprochent d'avoir donc dansé à cet enterrement. Et il y a un moment, la phrase est sortie, ils disent, ouais, qui danse à un enterrement?
Oui, alors c'est Nate qui dit ça.
Oui, hein. C'est Nate qui lui dit ça. Mais donc même Nate, parfois, est un connard. Mais après, il se rattrape bien. Mais qui danse à un enterrement? Moi, j'ai envie de dire, qui filme, parce qu'il y a quelqu'un qui le filme pendant l'enterrement, qui filme un fils endeuillé qui fait une danse, certes ridicule, mais en hommage à sa mère, où on voit très bien que ce type est détruit. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas plus d'empathie pour lui, enfin pourquoi les personnages autour de lui n'ont pas plus d'empathie pour lui. Voilà.
Et c'est pas le nouveau mec de son ex-femme justement qui le filme et qui se sert de ça pendant le procès pour le ridiculiser.
Ah, c'est lui qui le filme.
Et montrer que. Compris,
ouais. Ah, j'avais pas vu que c'était lui. Je crois que c'était un gamin qui le filmait, moi.
Oui, bon. Marie, attends.
Comprends
Marie...
pas pourquoi le. Pardon, mais tu comprends pas pourquoi le nouveau mec de son ex-femme a réussi à voir la vidéo.
Mais vous êtes sûr que c'est lui qui l'a
vu? Sinon, tu ne comprends pas.
Après, il doit être peut-être à l'enterrement, puisqu'elle l'a raconté, il a réussi à se procurer.
Mais oui, parce qu'il dit que c'est dans le clou, donc il a peut-être foutu sur YouTube. Et puis, l'avocat de son ex-femme l'a forcément trouvé. Enfin, ça, c'est facile à trouver. Oui, Marie?
Oui, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec Fiona quand elle dit que c'est une ode à la sensibilité masculine. Je trouve que c'est un personnage extrêmement touchant. Et j'ai l'impression que les autres personnages sont touchés. Nate. C'est un personnage qui est seul. Il a été abandonné par toutes les femmes de sa vie. Sa mère est morte. Visiblement, elle a caché sa maladie. Sa sœur, elle en a rien à foutre. Elle vient même pas à l'enterrement de sa mère. Sa fille, on a l'impression que son père, c'est un sombre loser. Et sa femme, elle l'a larguée comme une merde. Elle veut récupérer la garde de sa fille. Elle essaye de l'entuber avec les papiers.
Elle est prête à le détruire complètement,
oui,
en plus.
Et c'est assez terrible. Et il y a une scène qui est terrible où son collègue Nate l'invite à dîner en famille pour lui remonter un peu le moral. Et il est face à cette famille unie, chaleureuse, drôle, où ils sont tous très attachés les uns aux autres. Et ils lui disent, tu sais, tu peux revenir quand tu veux. Mais tu sais que c'est pas vrai, en fait. Il n'a pas sa place dans une famille.
Moi, ce qui m'a touchée dans cette scène, c'était plutôt lui qui... Il demande... Ah, j'ai vu la photo où vous êtes allé au marché. Tenez-moi au courant quand il y a des événements comme ça, des activités familiales à faire. Ça a l'air d'être des choses chouettes à faire. Et des moments... Alors, en anglais, c'est frameable. C'est-à-dire, c'est des moments qu'on peut prendre en photo. Enfin, on aurait la photo. Et en fait, je trouve que c'est très juste aussi au niveau... C'est un film aussi sur le deuil. Parce que je trouve que quand t'as quelqu'un de très proche, notamment un parent, j'imagine, qui meurt, c'est le moment de faire un peu le point sur ta vie, sur ce que t'as et sur ce que t'as envie de garder. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il veut des moments. Il veut changer sa relation avec sa fille, il veut changer sa vie. D'ailleurs, je trouve que c'est très beau ce qu'il dit à l'enterrement. Il dit aussi je parlais mal à ma mère et je dis à ma fille de mieux me parler, pas pour moi, parce que moi je peux endurer ce qu'elle me dit, pour pas qu'elle ait à vivre. ce que je ressens maintenant, ouais, c'est-à-dire de me sentir coupable. Non, mais c'est, je trouve
non,
que
mais
c'est
je,
vrai.
Non, mais je suis d'accord. Mais justement, là, je trouve qu'il a un peu trop cherché l'empathie dans le film. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage crie aimez-moi. Oui, je suis un peu loser, je fais ça, mais je suis un mec bien. Les deux scènes où je trouve qu'il est trop loin, c'est la scène où il s'entraîne toute la nuit à jouer au jeu de la main là, pour sa fille. Là. D'ailleurs, il arrive super vite, je me sens trop. Et la scène vraiment où l'avocate vient le voir, elle fait oui, vous demandez la garde exclusive. Elle fait non, garde partagée, je trouve qu'un enfant a besoin de sa mère. Et là, l'avocate, elle dit jamais personne m'avait dit ça. Non, mais arrête, si tu passes pas pour un mec hyper bien parce que tu dis un enfant a besoin de sa mère. Oui, Marine.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve que la scène avec sa fille, avec le, elle lui apprend, entre guillemets, elle lui demande de jouer au jeu des mains, donc de se taper dans les mains très très vite en croisant les mains. Je trouve que c'est une des plus belles scènes du film parce que tu ne sais pas en fait qu'il s'est entraîné toute la nuit, tu le découvres après. Et je trouve que cette scène-là elle est extrêmement bien construite. Après sur la scène. Où, avec le juge, elle m'a pas particulièrement ennuyée par rapport à l'empathie que ça t'entraîne à avoir pour lui. Non, ce que je trouve too much, par contre, c'est à la fin quand sa femme fait une overdose. Je trouve que ça règle très facile. Enfin voilà, ça lui règle très facilement entre guillemets la situation.
J'ai bien aimé la gifle.
C'est comme en plus on l'a pas vraiment envisagé comme une junkie, enfin je pense que c'était pas vraiment nécessaire pour te montrer que ce personnage et t'as envie d'avoir de l'empathie pour lui et tout. Cela dit, t'as envie d'avoir de l'empathie pour lui, mais t'es aussi extrêmement embarrassé par lui. Enfin, moi j'étais complètement du point de vue de son pote, de Nate, surtout la scène quand il débarque chez lui parce que tu sais qu'il est en profonde dépression et il le retrouve dans sa chambre, il est alcoolisé, il dort pas, c'est un énorme bordel et il est tellement ému, il appelle sa femme en disant pour lui dire qu'il l'aime, juste pour se dire oh, heureusement on n'est pas comme lui quoi. Et moi je suis plus dans le point de vue de son pote.
Les personnages embarrassants ont naturellement de l'empathie. Regarde Michael Scott dans The Office, il est extrêmement embarrassant et on a énormément d'empathie pour lui. Moi dès le début. Marie.
Oui, non mais je voudrais revenir sur ce personnage de loser parce qu'il y a quelque chose qui m'a c'est là où je trouve le personnage des fois difficile à cerner, c'est que il dit que tout montre que c'est un loser. En même temps, c'est un père qui est extrêmement attentionné envers sa fille. Et puis, à un moment donné, quand il pète un plomb et il dit qu'il part de la police, mais en fait, il se fait un peu virer. On lui demande de rendre son flingue et tout. Il dit mais je suis le plus décoré du commissariat. Et d'ailleurs, quand tu le vois intervenir en mission, il s'en sort pas si mal.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait il fait plein d'efforts quoi. C'est un type qui a la poisse plus qu'un type qui fait les mauvais choix. Et c'est pour ça qu'on s'attache à lui.
Mais est-ce qu'on s'attache vraiment à un personnage qui est malchanceux? Moi je pense qu'on s'attache plutôt à un personnage qui fait les mauvais choix justement.
On s'attache parce qu'il est vulnérable. Donc
Fiona.
Voilà, pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être le défaut, c'est qu'il fait tous les bons choix. Et effectivement, on le voit loser maintenant, mais on nous dit, sans nous le montrer, que ça a été un très bon flic avant et qu'il a justement sacrifié sa vie de famille pour sa carrière. Et c'est peut-être pour ça que sa fille le déteste. C'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Ceci dit, on voit dans sa scène où il pète un câble sur le parking...
Oui.
Oh, moi j'aime bien ces scènes-là où on t'explique un peu comment les fous peuvent devenir fous.
Dans cette scène-là, à un moment, il dit une réplique.
Il dit la réplique du fou.
Il dit la réplique du fou qui était
avant. I don't know.
À un moment dans le film, ils interviennent pour. J'explique un petit peu.
Oui, oui.
Pour embarquer un mec complètement taré sur un parking de supermarché qui répète une phrase en boucle et quand lui-même pète un plomb, c'est cette phrase-là qui revient et c'est extrêmement bien bouclé, c'est beau.
C'était bien fait.
Et juste, moi j'avais bien.
Oui, un dernier mot, Fiona.
Désolée. J'ai bien aimé, toi t'as pas aimé du coup quand il voit sa femme qui a fait une overdose, donc qui est morte. Il lui embrasse la main de la part de lui et de sa fille. Et ensuite, il la gifle de la part de sa propre mère et du futur mari de sa fille, qui a quoi, 8 ans. Et moi, j'ai bien aimé, de la part du futur mari de Crystal, ça m'a plu parce qu'il dit comme ça que, ok, donc t'as détruit ta fille, et qu'est-ce qui va t'en vouloir? C'est pas quelqu'un qui t'a connu, c'est quelqu'un qui va juste voir la destruction que t'as fait à ta fille. Et ça m'a, m'a parlé.
Elle sera peut-être lesbienne, on sait pas.
Ou de ton mari.
Rafiki,
ça dépend.
Peut-être.
Ça dépend.
Très bien. Tour final sur ce film, Cédric?
Ouais, moi je le recommande, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'au-delà de la performance d'acteur, il y avait plein de thèmes qui étaient intelligemment traités. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est juste une scène pour que Jim Cummings se mette en scène. Vraiment, Ou alors, il a eu un super feeling ou un super coup d'essai, j'en sais rien, mais le scénario est très malin, quoi.
Très bien, Marie.
Oui, j'ai trouvé que c'était surprenant, très touchant, sensible, un personnage comme on a peu l'occasion de voir, et oui, je le recommande.
Ok, Marine.
Moi, je le recommande aussi. J'ai trouvé que c'était un film très humain, très embarrassant, donc très humain. Voilà.
Fiona.
Je le recommande évidemment. Je trouvais que c'était très sensible et effectivement très juste sur beaucoup de points. Et oui, je pense que c'est pas juste un book d'acteur parce que je crois que c'est avec un peu plus de cœur que ça. Et d'ailleurs, ça vient d'un court métrage qu'il avait fait avant.
Ah bah tiens,
oui, qui était le monologue de l'enterrement. Du début de l'enterrement.
Bah, c'est pour ça que ça me semblait exactement ça. Oui, bah moi je maintiens ce que j'ai dit. Hein. Ça me paraît vraiment une démonstration de regarder comme je joue bien. Mais donne, mais
donne. Film mais... ou pas
Il porte le film
est plutôt pas mal. Le film est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment le mec. Je réalise, je tourne, je montre, j'ai toutes les meilleures scènes. Mais donnez-lui son Oscar et qu'on arrête d'en parler, quoi. Mais ce n'est que mon avis.
À mon avis, on entendra parler.
Ah oui, ça, oui. Ah oui, non, mais là, c'est un film à Oscar, c'est sûr. Il y a tout. Il y a la petite fille, il y a la mort de sa mère, le divorce, la mort de son ex-femme et tout. Là, c'est parfait, ça. On termine avec les recommandations, les dérecommandations, les courriers ou fuyers de la semaine. Cédric ?
Alors moi, ça va être une recommandation. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans ce podcast. Mais c'est une série d'animation qui s'appelle Vermine, qui passe sur la plateforme Black Pills. Et voilà, c'est un polar cracra et très drôle. Voilà, avec deux insectes flics qui font une enquête dans une espèce d'univers complètement dingue.
Mais c'est une série ou c'est un feuilleton ?
C'est une série.
Adulte
une série.
Ou enfant ?
Adulte, très adulte même.
Bouclé ou feuilleton ?
Non, c'est feuilleton.
Ok. Marie ?
Alors moi, je te donne le pouvoir de recommandation ou dérecommandation.
Merci, parce que tu n'as rien cette semaine. Marine.
Non, parce que tu en as deux.
Parce que j'en ai deux, oui. Marine.
Moi, je vais recommander un spectacle de stand-up qui passe sur Netflix, qui s'appelle Nanette. C'est le spectacle de Anna Gatsby. On l'a déjà dit, ça.
C'est une asiatique ou pas ?
Je le re-recommande. Non,
non, alors non, je crois pas.
Non,
ah non, c'est Ada Wong.
Je le re-recommande. Alors.
Ça lui apprendra. Fiona.
Moi, je vais dérecommander la série d'animation Désenchantée de Matt Groening, malheureusement, parce que j'ai regardé que deux épisodes et demi, donc peut-être que ça devient mieux après, mais mais j'ai pas réussi à aller au bout. C'est extrêmement lent. Enfin, c'est lent, c'est pas rythmé du tout. L'humour, c'est sympathique, mais en fait, il y a eu tellement mieux dans Les Simpsons, et on en a de sa part vu tellement mieux qu'on peut être que déçu. Et ouais, on s'ennuie, quoi.
Donc, ouais, c'est pas très heureux. Ouais.
Ouais, donc de la part, donc c'est pas parce que c'est Matt Groening qu'il faut le voir, donc ne le voyez pas parce que
visuellement c'est magnifique, mais j'ai vu que le pilote et j'ai pas eu envie de regarder la suite. Donc voilà. Donc ma dérecommandation, merci Marie, c'est Climax, le film de Gaspard Noé, qui est une saloperie scénaristique, une des plus grosses merdes que j'ai vues de cette année. Donc n'allez pas le voir. Et ma recommandation, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Dirk Gently, et il faut la regarder parce que c'est une audace scénaristique que j'ai rarement vue. On ne comprend rien. Le pilote, non mais j'ai jamais vu ça. C'est quand tu disais tout à l'heure, c'est pas ce qu'on nous apprend. Là, il y a 8 intrigues dès le début qui n'ont aucun lien. Tu ne comprends pas ce qui se passe. T'as des personnages de partout. Tu essayes de suivre une intrigue. Bam, on t'en balance 3 autres sans que tu comprennes. T'as une meuf qui est enfermée dans un immeuble.
Je ne pas.
Non mais ça c'est juste le début, t'as des mecs en motard, en batte de baseball qui cassent la gueule à tout le monde, c'est Elijah Wood qui se voit lui-même dans un ascenseur, enfin bref. Et plus les épisodes passent, faut s'accrocher, hein. Faut vraiment s'accrocher, et plus les épisodes passent, plus toutes les réponses arrivent, parce que la base de cette série, c'est donc Dirk Gently qui est le personnage principal, dit que tout est connecté. C'est un détective qui dit, moi je me balade, et en fait les événements arrivent à se répondre, et donc en fait on comprend à la fin... Que tout est lié et que le fond va avec la forme. Et que le mec avait raison depuis le début. Et honnêtement, c'est un mot que je ne dis pas, mais c'est brillantissime. Donc il faut regarder. Et la saison 2 est encore plus barrée et encore plus agréable à regarder. On s'arrête là pour cette semaine. Chose que j'oublie de dire régulièrement, mais mettez des étoiles sur iTunes et puis laissez-nous des commentaires parce qu'il paraît que ça fait monter les abonnements. Je sais pas, j'ai pas compris. Excusez-moi, je n'utilise pas de Mac. Je suis quelqu'un qui suis pressé.
Internet, c'est pas le même qui est sur Mac.
Ouais, c'est vrai. Bon, bref. Et puis on se dit à dans deux semaines. À bientôt.